Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ton œuvre d'amour dans cette prière, pour toutes les grâces que tu accordes, alors que nous sommes si pauvres. Merci, Seigneur, de tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les conversions que tu as déjà accordées dans cette prière depuis qu'elle existe, depuis plus de 20 ans. Merci, Seigneur, de toutes ces centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont reçu des grâces depuis tant d'années. Tu ne te fatigues pas de continuer à accorder des grâces. Ton cœur ne s'épuise jamais, Seigneur, parce que tu veux continuer de manifester ton amour pour que nous ayons la chance de nous convertir. Donne-nous cette grâce, à travers la parole que nous allons entendre, d'avancer dans notre chemin de conversion. Que chaque jour, nous acceptions de faire un pas de plus et quand nous tombons, de nous relever. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 8, à partir du verset 11. À partir du verset 10. Et aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, Jésus vint dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, Jésus dit, « Qu'a cette génération à demander un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Voilà, ce récit assez court que je vous ai lu fait suite à la seconde multiplication des pains dans l'évangile de Marc. Jésus a multiplié des pains pour qu'une grande foule soit nourrie. Avec quelques pains et quelques poissons, il a nourri une grande foule et il en restait encore beaucoup. Et cette multiplication des pains ne s'est pas faite en Israël, mais dans un lieu païen à l'époque, où il n'y avait pas beaucoup de juifs, que le Seigneur montre que le salut n'était pas que pour les juifs, mais pour le monde entier. Et là, il revient dans une région proprement juive, et les pharisiens, donc ce sont ceux qui sont les spécialistes de la loi à l'époque, donc qui travaillent beaucoup la loi, c'est-à-dire la Torah, l'Écriture sainte. Donc ce sont des gens qui cherchent, a priori, qui devraient chercher à croire, qui sont très pratiquants. Donc ils sont des gens très religieux. Et voilà, le cœur de ces gens très religieux est souvent endurci. Pas tous, pas tous les pharisiens ont un cœur endurci, mais certains, oui, beaucoup. Et surtout, ils n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Donc sans cesse, ils cherchent à démontrer qu'il n'est pas le Christ, qu'il n'est pas le Messie. Ils cherchent sans cesse à lui montrer, à lui tendre des pièges. Et là, les pharisiens sont sûrement très remontés parce que Jésus est allé faire une multiplication de pain en territoire païen. Et donc, ils ne supportent pas que Dieu puisse faire des miracles pour les autres, pour les païens. Normalement, la loi est réservée aux juifs et les païens n'ont pas accès aux miracles divins. Donc, ils sont très remontés et ils demandent un signe à Jésus venant du ciel. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans l'esprit. Ils veulent que Jésus dise à Jésus, montre, fais-nous un signe, donne-nous un signe qui vient du ciel, fais quelque chose d'extraordinaire pour nous convaincre. Et on pourrait penser, ben, Jésus va le faire, mais non, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? D'abord parce qu'il voit bien que dans cette demande, il n'y a aucun acte de foi. Parfois on peut demander des signes au Seigneur, mais en fait on ne pose pas d'acte de foi. Il dit au Seigneur, si tu fais ceci, je croirai en toi. Ouais, ben d'accord, mais ça veut dire que tu ne crois pas pour l'instant. Donc tu n'es pas vraiment dans la foi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur il te répondrait positivement. Donc si on met comme ça le Seigneur à l'épreuve, il y a peu de chances qu'il soit... Ça le blesse, ça lui fait mal. Sans qu'on n'ait pas forcément ouvert à la grâce qu'il veut nous donner. Donc on voit Jésus qui souffre profondément de cette hostilité des pharisiens qui ne veulent pas croire et qui pourtant ont déjà vu beaucoup de miracles. Mais ça ne leur suffit pas. Ils ont déjà vu beaucoup de miracles, ça ne leur suffit pas, il en faut toujours plus. Et même si Jésus faisait un signe venant du ciel, il en a fait plein, même des signes, il calme la mer devant les apôtres, eh bien, ils ne croiraient pas encore. Ils diraient, comme ils le diront à un certain moment, que Jésus fait ça par les puissances démoniaques. Voilà, le Seigneur, pour certaines personnes, il peut faire autant de signes qu'il veut, on dira, voilà, on trouvera toujours une raison pour ne pas croire en Jésus-Christ. On dira que ce sont des forces, j'ai vu sur Internet une fois que quelqu'un disait, dans un livre, que les miracles ici se font par des forces telluriques. Les forces telluriques, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est des forces qui viennent de l'univers. qui jaillissent dans cette prière et qui font des miracles. Ben oui, ben, on peut toujours leur expliquer que c'est Jésus qui guérit, croiront toujours que c'est des forces telluriques, parce que pour eux, c'est bloqué dans leur tête, il faut faire autrement. C'est pas la peine de discuter, c'est toujours comme ça. Bon, moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'une force tellurique, je serais bien embêté de savoir comment on les fait agir, ces forces telluriques. Eux, ils sont convaincus que s'il y a des conversions aussi, c'est qu'il y a des forces telluriques, des énergies mystérieuses qui circulent dans cette assemblée. Très bien. Voilà, donc face à ça, on ne peut pas vraiment discuter parce que ce sont des croyances qui sont ancrées dans l'esprit. Il faut vraiment que la personne fasse un grand chemin pour en sortir parce qu'elle ne veut pas poser réellement un acte de foi. Croire que c'est des forces telluriques qui agissent ici, ça évite de croire en Dieu. C'est des forces anonymes, donc on n'a pas besoin de se convertir, on n'a pas besoin de croire en Dieu, c'est des forces anonymes, donc il n'y a rien à faire. Juste à se mettre en disposition pour que les forces telluriques agissent. Eh bien non, ce n'est pas les forces telluriques qui agissent dans cette assemblée, c'est le Christ, c'est une personne qui nous demande d'avoir foi en lui, de mettre notre confiance en lui. Et Jésus dit « Car cette génération a demandé un signe ». Quand Jésus utilise le terme « génération », c'est toujours connoté négativement, il parle de la génération, il dira que sa génération est une génération adultère et pécheresse, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Génération incrédule. Et c'est un terme aussi qui sera appliqué au peuple hébreu quand il va sortir d'Égypte. Il aura beau avoir vu les miracles de la mer Rouge qui s'ouvre, de passer à pied sec, d'être libéré miraculeusement de cette armée qui allait les massacrer, l'armée égyptienne. Et bien une fois arrivés dans le désert, ils vont pratiquer l'idolâtrie. Donc ils ont beau avoir vu l'œuvre de Dieu, ils ne se convertissent pas. C'est très dur pour eux d'arriver à se convertir. Ils ne veulent pas se convertir et on est tous un peu comme ça, on a du mal à avancer dans la conversion. Nous sommes une génération pécheresse. Donc Jésus n'insiste pas et il s'en va. Il n'insiste pas, il sait que c'est même pas la peine d'essayer, il s'en va. Vous voyez ? Quand nous ne voulons pas nous convertir face à Dieu, ben Dieu ne va pas forcer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va attendre que celui qui se trompe eh bien, aille suffisamment dans ses erreurs pour un moment se dire, eh, peut-être que je me trompe. Quand sa vie va dégringoler, un moment, peut-être qu'il va dire dans sa tête, bah, peut-être que j'ai fait une erreur. Et à ce moment-là, il va peut-être faire une prise de conscience pour changer. Mais tant que cette personne n'est pas disposée à faire cette prise de conscience, Dieu ne peut rien faire. Maintenant, je vais vous donner quelques témoignages. Donc face à cet enseignement, il faut dire au Seigneur, fais grandir ma foi, enlève les résistances qu'il y a dans mon cœur, enlève tout ce qui s'oppose à toi, les murailles que j'ai mis dans mon cœur qui s'opposent à toi. Si je reconnais que dans mon cœur il y a des murailles contre Dieu, Dieu peut enlever ces murailles. Mais si je dis, moi je suis nickel, il n'y a rien à enlever, je suis parfait, Dieu ne peut rien faire. Vous voyez, on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade, c'est impossible. Quelqu'un qui se reconnaît pas malade, on ne peut pas le soigner. Donc si on reconnaît qu'on est malade spirituellement, on a le droit d'être malade, on est tous plus ou moins malades spirituellement, là Dieu peut agir. Et si on refuse de reconnaître, il ne peut pas agir. Il faut que le Seigneur nous aide à cheminer, et il le fait. Quand le Seigneur s'en va, ça ne veut pas dire qu'il dit qu'il pense que c'est perdu. Hein. Il sait très bien qu'il va revenir plus tard, il va agir autrement. Mais pour l'instant, le moment n'est pas venu. Alors, je vais donner ce témoignage de Sarah qui m'a envoyé un mail. « Bonjour, je viens témoigner de plusieurs guérisons. Ma nièce, malade, est venue de Belgique à la prière des malades. Elle m'a demandé de l'accompagner à votre église. Elle m'a parlé de guérisons miraculeuses. Je ne l'ai pas cru. Une de mes sœurs, par gentillesse, l'avait déjà accompagnée à Saint-Nicolas-des-Champs. Or, le fils de ma sœur était très malade. Lors de la prière des malades, donc lui n'était pas venu, mais sa maman avait prié pour lui, lors de la prière des malades, une parole de connaissance a annoncé une guérison d'une personne qui devait subir un examen grave. Suite à cette parole, son fils a été guéri. Elle ne précise pas quelle était la maladie. Quelques mois plus tard, j'ai appris que mon époux était atteint par un cancer de la prostate. J'ai donc finalement décidé de venir prier à Saint-Nicolas-des-Champs pour lui. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'un cancer de la prostate. Et les examens ont montré par la suite que le cancer de mon époux avait disparu. Suite à cela, j'ai continué à venir à prier pour les gens malades. Cette fois-ci, elle s'est mise à croire à la prière des malades. Et Dieu a encore donné la guérison à une personne pour qui j'ai prié, atteinte de la maladie de Parkinson. Et je rends grâce à Dieu. Nous sommes des convertis, nous étions musulmans, et je remercie mon Seigneur Jésus-Christ de toutes ses grâces. Béni soit notre Seigneur. Jésus a transformé ma vie. Je remercie et met tout le personnel de l'Église, ben oui, tous ceux qui œuvrent dans l'Église et tous ceux qui participent à la prière. Que Dieu vous bénisse, Sarah. Voilà, merci pour ce témoignage. Maintenant, je vais donner le témoignage de Sylviane, qui est un petit peu plus long. Alors, j'ai 55 ans, j'ai été manipulée sous emprise pendant 20 ans. Je suis issue d'une famille catholique pratiquante. J'étais très croyante enfant, mais vers 22 ans, je pensais que je serais plus libre et plus heureuse en mettant ma foi de côté. Je voyais la religion comme un panier d'interdits et je voulais m'amuser et vivre avec mon temps. En février 2017, rien n'allait plus dans ma vie, mon mariage, mes enfants. Je me sentais au bord du gouffre, sans énergie pour m'en sortir, comme une zombie. Ma vie était devenue une prison. Je dormais peu et je poussais des cris la nuit. Je me faisais peur. Sur les conseils de ma sœur, je suis venu prier à la chapelle miraculeuse de la rue du Bac. Je m'agenouillais sur les marches et je commençais à faire des demandes qui furent vite interrompues par des pensées de remords d'avoir joué avec les sentiments d'un garçon. J'interrompis ces pensées insoutenables. Je n'osais plus rien exiger de Dieu et je sortis de la chapelle de la rue du Bac en disant simplement « Que votre volonté soit faite ». Jeudi suivant, ce jour, un homme dans la rue me demanda de lui indiquer le chemin de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Je me rappelais que c'était le jour de la prière des malades. Je décidai d'y passer après mes courses. J'arrivais juste à l'heure. Il n'y avait plus de place. Je me trouvais debout, serré, près de la sortie. La station debout me faisait mal au dos depuis l'âge de 15 ans. J'ai sans doute une jambe plus courte que l'autre à la suite d'un accident. Rapidement, je commençais à sentir une très forte douleur lombaire, plus intense que d'habitude, qui s'est déplacée le long de ma colonne vertébrale pour s'installer sur mes deux épaules comme le poids d'une poutre, comme le dessin d'une croix dans le dos. Je voulais pourtant rester le plus longtemps possible. J'ai ressenti ma cage thoracique s'ouvrir un peu. Je suis resté jusqu'à la fin de la prière sans prier pour moi, en me disant que j'avais déjà tout demandé rue du Bac. J'ai prié pour les personnes présentes. Vers la fin de la prière des malades, la douleur s'est estompée pour ressembler à des courbatures. Je n'étais pas certaine d'avoir vécu une guérison. Les jours qui suivirent, je ressentais plusieurs fois par jour un point douloureux dans le dos. Je me mettais tout de suite à prier et la douleur s'arrêtait immédiatement. J'ai compris que Dieu me demandait de prier le plus souvent possible, que j'étais attaqué jour et nuit par des démons. J'entendais des voix qui m'énervaient, qui me poussaient à dire des gros mots. J'ai même senti une main moite me soutenir sous mon côté une nuit. J'avais été voir deux fois une astrologue vers 25 ans, on m'avait tiré les cartes de tarot vers 30 ans, inquiète par les attaques de démons qui avaient disparu mais que j'avais vécu. Je suis allé voir un exorciste en mai 2018 qui m'a demandé de bien faire attention à ma médiumnité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont un petit peu médiums dans leur tête, qui ont des sinili dons de voyance, et il ne faut pas qu'ils exercent ces dons, parce que les démons en profitent pour les dominer. Donc il m'a dit que je devais faire mon don de médiumnité, que je faisais plus appel à mon intuition qu'à mon intelligence pour diriger ma vie, que mon intuition m'avait trompé. Dieu me pardonne. Depuis, je vais tous les jeudis à Saint-Nicolas-des-Champs, et à chaque fois, très ému par les chants, je pleure et en même temps, je reprends des forces. Je sentis le parfum de fleurs deux fois dans l'église. Je prie jour et nuit, je me confesse régulièrement, mais jusqu'à il y a un mois, je n'en tirais que peu de soulagement. Jusqu'à ce que je reconnaisse des péchés qui ne paraissaient pas très graves, et j'ai compris que c'était cela que Dieu voulait que je confesse. Alors mon sommeil est revenu. La prière est maintenant comme un bouclier qui me protège. Je suis moins impulsif, plus réfléchi. Je vais prier devant le Saint-Sacrement et j'y reste jusqu'à ce que je retrouve mon calme. Je retrouve doucement la paix que j'avais complètement perdue. Dieu me relève physiquement et moralement à chaque pas que je fais vers lui. Il ne m'a pas donné tout ce que je lui avais demandé. J'ai encore besoin d'un travail, mais une guérison physique, le dos et les cervicales qui sont guéris, et une guérison en partie mentale. Je suis sorti, je crois, de l'emprise dans laquelle je vivais. j'ai retrouvé mes esprits, ma mémoire et ma lucidité, et pas encore la gaieté. Je suis en marche. Mes relations avec les autres se sont améliorées, mes difficultés familiales ne sont pas résolues, mais j'arrive à les affronter plus sereinement. Quelquefois, je m'effondre encore et je me relève par la prière. J'ai raconté ma guérison à des personnes non croyantes, et à mon grand étonnement, personne ne s'est moqué de moi, ils étaient plutôt intéressés. Je remercie la Vierge Marie de m'avoir entendu, Sylviane. Voilà, merci Sylviane pour ce beau témoignage. Vous voyez que là, c'est un témoignage qui se fait dans la durée. Le Seigneur la remet progressivement debout, guérit son dos, l'aide à sortir de cette emprise, la guérit de ses attaques démoniaques progressivement. Elle-même, elle a fait un chemin, elle se confesse, elle prie. C'est pas venu d'un coup, vous voyez. Le Seigneur a mis à l'épreuve la fidélité de cette femme qui a continué à lutter. Et elle voit bien que ça remonte progressivement, que le Seigneur l'a fait sortir de l'abîme dans laquelle elle était, puisqu'au départ, elle disait qu'elle criait même la nuit, qu'elle ne dormait pas. Donc elle était vraiment dans un abîme profond, dans de grandes souffrances. Voilà, merci Seigneur pour ces guérisons. Alors, ça continue. Elle dit qu'elle n'a pas encore retrouvé la joie, mais ça va venir certainement. Le Seigneur, à un moment donné, va faire jaillir la joie de son cœur. Voilà, quelques autres petits témoignages. Maria souffrait au genou depuis 3 mois. Elle ne pouvait plus s'agenouiller. Suite à une parole de connaissance, il y a 2 ans, elle a été immédiatement guérie et a pu tout de suite se mettre à genoux. Une autre guérison, une femme qui était très fâchée avec sa sœur, il y a une parole qui annonçait une réconciliation et elle a remarqué que très vite la relation avec sa sœur s'est améliorée, bon, certainement aussi parce qu'elle a fait des efforts, ça ne va pas tout seul évidemment. Une autre femme a reçu des grâces d'apaisement suite à une parole qui était donnée en juin 2006, donc ça fait longtemps que cette parole a été donnée, mais elle n'avait pas donné son témoignage. Donc cette parole annonçait la guérison d'une personne ayant subi des abus sexuels. Et le Seigneur a donné à cette femme une grâce de guérison et d'apaisement pour sortir de ses souffrances qui étaient probablement très très grandes. Véronique a eu des entorses à répétition pendant 10 ans. Elle souffrait de ces entorses en les unissant, elle offrait ses souffrances, pardon, en les unissant à celles de Jésus, mais elle était très handicapée par ses entorses pour son travail et pour faire le catéchisme. Elle est venue le 28 juin 2018 à la prière des malades avec sa souffrance intense, donc ses entorses, son entorse. Elle s'est aperçue en sortant qu'elle ne souffrait plus et depuis elle n'a plus fait aucune entorse. Donc ça faisait 10 ans qu'elle faisait des entorses, elle n'en fait plus. Elle termine sa lettre en remerciant le Seigneur. Et le dernier témoignage que je vais donner ce soir, celui de Marie-Josée, qui a reçu en avril 2018 une parole dont elle a pu vérifier qu'elle la concernait, parce que cette parole disait qu'une personne allait recevoir une joie qu'elle n'a jamais connue jusqu'à présent. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Marie-Josée. Elle a reçu une joie extraordinaire, et depuis, elle est dans cette joie et dans la louange. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu opères, au plan physique, psychique, spirituel, qui viennent nous relever. Nous avons confiance en toi. Nous croyons en tout de tout. Nous allons maintenant vous accueillir que ce croyant que tu es présent dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire ce pain sans levain qui a été consacré par le prêtre à la messe et qui est devenu ta chair. Amen.